RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud.
Dassault livre aujourd'hui son premier Rafale à l'armée indienne. Une cérémonie en grande pompe est organisée sur le site de construction de l'avion de combat à Mérignac, dans le sud-ouest de la France. Il s'agit bien sûr de célébrer ce méga contrat puisqu'il porte sur 36 appareils. Mais c'est une vente dont on est encore loin de connaître tout ce qu'elle implique.
Oui, c'est surtout en Inde que l'on s'interroge encore et encore sur le montant de la facture. Il s'est envolé depuis le premier contrat avorté de 2012. Les compensations exigées par le client sont maintenant presque plus chères que l'avion. Elles se montent à 3,9 milliards d'euros sur un contrat total de 8 milliards d'euros. Car comme toutes les ventes de cette dimension, le fournisseur s'engage à des offsets, des contreparties. En l'occurrence, le développement d'une filière aéronautique privée. Le problème, vu de New Delhi, c'est surtout le bénéficiaire de ces compensations. Reliance, un groupe dépourvu d'expérience en aéronautique, a été préféré à l'unique entreprise publique indienne du secteur. Reliance appartient à l'homme d'affaires Anil Ambani, un proche de Narendra Modi. L'opposition y a vu un cas flagrant de favoritisme. Elle a essayé d'en faire un enjeu des législatives du mois de mai. Sans succès, Narendra Modi a remporté les élections et il était blanchi de toutes les accusations de corruption.
Est-ce que ces compensations relèvent du transfert de technologie ?
Alors c'est plus une mise à niveau des compétences qu'un véritable transfert de technologie. Les offsets sont devenus une ardente obligation des grands contrats depuis ces 40 dernières années, mais leurs résultats sont inégaux par manque de suivi, parfois par manque de volonté du côté de l'acquéreur. Sur ce contrat, de gros doutes subsistent sur la capacité de Reliance Défense a mené son projet à terme, étant donné qu'il appartient à un groupe moribond, perclus de dettes. Pour le moment, la filiale indienne assure sa part du contrat dans le centre de l'Inde, tout près de l'aéroport de Nagpur. Son usine construite avec Dassault a commencé à produire le nez du Falcon 2000. Des pièces du Rafale seront bien fabriquées sur place, mais les 36 avions seront fabriqués et assemblés surtout en France. Si le montant du contrat et des offsets est faramineux, les investissements concrets, pour l'instant, se chiffrent plutôt en centaines de millions d'euros qu'en milliards. Et Dassault semble avoir limité au minimum les transferts de technologie souhaités par les Indiens.
Le partenariat avec Reliance intrigue aussi en raison de ses liens avec des entreprises étrangères.
Oui, c'est ce qu'ont révélé nos confrères du Monde il y a quelques jours. Il existe des relations troublantes entre la société ukrainienne MotorStitch et le groupe indien Reliance. MotorStitch fabrique des moteurs d'avion, notamment pour l'avionneur ukrainien Antonov, célèbre pour ses gros porteurs. Et Antonov est devenu un partenaire de Reliance Défense sur le site de Nagpur. Jusque-là, tout va bien. Le hic, c'est l'identité réelle de MotorStitch. L'entreprise travaille en fait surtout avec et pour la Russie. Et voilà qu'elle est maintenant convoitée par les Chinois. Une intervention très musclée de l'administration américaine a gelé la transaction qui a failli aboutir cet été. Un coucou russe et bientôt chinois se niche-t-il dans la co-entreprise Reliance Dassault. Le risque de fuite, d'espionnage industriel via un sous-traitant est réel, selon un expert. D'autant plus que l'Ukraine est une vraie passoire, mais il faut raison garder, nous dit ce spécialiste. La schizophrénie de Dassault est telle qu'il ne dépend d'aucun acteur étranger pour les pièces les plus sensibles de ses appareils.
L'actualité économique, en bref, on apprend que les Nations Unies seraient bientôt à court d'argent.
Oui, les tiroirs sont vides. Sans mesure d'urgence, l'organisation ne pourra pas verser les salaires jusqu'à la fin de l'année, précise le secrétaire général Antonio Guterres dans une lettre adressée au personnel. La faute, bien sûr, aux États mauvais payeurs. Le budget total de l'ONU est supérieur à 5 milliards de dollars. Son fonctionnement nécessite 230 millions de dollars.
Et puis les marchés financiers, la bourse de Hong Kong renonce à son OPA sur la City.
Le London Stock Exchange a fermement décliné son offre à 35 milliards d'euros, d'où le retrait de l'opérateur boursier de l'ex-île britannique.
Et à propos de marché, à Tokyo, l'indice Nikkei est orienté à la hausse, plus 1,04% à 40 minutes de la clôture. À New York, hier, Wall Street avait terminé dans le rouge. Pierre-Yves Dugard.
La semaine de Wall Street pourrait être marquée par une transition avec peu de statistiques importantes attendues et avant le début la semaine prochaine de la saison des résultats trimestriels, saison qui va s'ouvrir avec les résultats des plus grandes banques américaines. En attendant, les traders s'accrochent à l'espoir de progrès dans les négociations commerciales entre Washington et Pékin. Les pourparlers au niveau des numéros 2 de chaque délégation ont repris à Washington, mais les discussions au niveau supérieur ne vont reprendre que jeudi. Un conseiller économique du président Trump avance qu'il est possible que des résultats positifs sortent de ces pourparlers, ce qui a soutenu à un moment la tendance hier. On surveillera tout à l'heure l'indice du moral des chefs de petites entreprises aux États-Unis pour le mois de septembre.
Pierre-Yves Dugas sur RFI.